franceinter.fr. Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Il s'appelle James Comey, c'est l'homme du jour, ex-patron du FBI. Il va raconter aujourd'hui au Congrès comment Donald Trump lui a personnellement demandé d'enterrer une enquête sur l'un de ses conseillers, un président américain qui demande à un chef du renseignement d'intervenir sur une enquête en cours. On le sait parce que des documents, sa déposition liminaire a été rendue publique hier soir à James Comey. Bonjour Dick Howard.
Oui, bonjour.
Bonjour André Caspi.
Bonjour.
Grave.
Oui, c'est grave parce que si c'était vrai, ce serait une obstruction à la justice. Et l'obstruction à la justice est tout à fait contraire au terme de la Constitution des États-Unis. Par conséquent, pourrait entraîner des conséquences très graves pour le président et notamment une procédure d'impeachment.
James Comey a donc publié 7 pages, enfin plutôt c'est la commission du Sénat qui a fait publier hier soir 7 pages de sa déposition liminaire où James Comey ne qualifie pas la relation qu'il a eue avec le président américain, mais il raconte en détail ses 9 conversations directes qu'il a eues en 4 mois, 3 en tête-à-tête et 6 au téléphone. La plupart de ces éléments ont été publiés, divulgués par la presse américaine. Il y a une concurrence effrénée qui se joue ces derniers jours entre notamment le New York Times et le Washington Post. Mais est-ce que vous avez été surpris en lisant ces détails, Dick Howard ?
Écoutez, d'abord, c'est une concurrence pas tant entre la presse, mais aussi entre les fuiteurs. Et on a l'impression que le gouvernement Trump est composé d'éléments qui ne marchent pas très bien ensemble. Maintenant, est-ce qu'on était surpris ? On a l'impression que Donald Trump agit comme il a toujours agi en tant qu'entrepreneur dans l'immobilier, prêt à dire tout et n'importe quoi, parce que effectivement, je vais vous vendre mon immeuble, je vais vous faire un prix, je dis tiens, bah ça va être 110 millions de dollars. Vous dites mais non, ça vaut pas ça. Il va dire oh oui d'accord, 7 ça va. Et puis bon, donc il n'a aucune compréhension de l'idée que la politique se joue au moins à 3. C'est-à-dire, c'est pas un face-à-face. Et c'est là le problème.
Quand il demande de la loyauté à James Comey, effectivement, on a l'impression qu'il se comporte comme un PDG qui s'adresse à l'un de ses directeurs, à l'un de ses cadres. Alors que, il faut bien comprendre que, aux États-Unis, les agences de police et de renseignement sont indépendantes. Et d'ailleurs, James Comey dit lui-même que il n'a pas eu la moitié de ses conversations avec Obama durant présidence Obama.
Puis, en principe, le directeur du FBI est nommé pour 10 ans. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être viré. Comme il l'a été. Il y a du côté de chez Trump une sorte d'imitation au pouvoir de ce qu'il faisait à la télévision. Parce que vous vous rappelez qu'il avait une émission qui consistait précisément à entendre un certain nombre de candidats qui voulaient entrer dans ses affaires. Et lorsque les candidats n'étaient pas à la hauteur, il avait cette formule « You are fired », c'est-à-dire « Vous êtes viré ». Bah, il a à peu près fait la même chose avec James Comey. C'est-à-dire que comme les relations entre les deux hommes n'étaient pas parfaites, Donald Trump a décidé de le virer. Ce qui est tout à fait inhabituel aux États-Unis. D'autant plus que les directeurs du FBI bénéficient d'une situation particulièrement forte. Prenez par exemple le cas de J. Edgar Hoover. Il est resté directeur du FBI de 1924 à 1972. 1924-1972.
Oui, forcément un exemple pour la démocratie américaine. Mais
c'est un exemple de longévité qui montre qu'il a survécu à beaucoup de présidences, y compris d'ailleurs à la présidence de John Kennedy, qui n'avait pas pour lui une amitié illimité. Donc, ce qui est surprenant dans l'affaire entre Comey et Trump, c'est que Trump l'a viré sans qu'il y ait véritablement de raison forte pour expliquer ce départ.
Au fond, on peut dire d'une façon générale que Trump se montre dans cette affaire totalement ignorant des règles de l'exercice du pouvoir, aussi bien pour l'indépendance du FBI, on vient d'en parler, que même pour les relations entre la justice et la politique, puisqu'il ne cesse de demander à Comey un brevet public de non-enquête sur lui-même, hein, que évidemment Comey ne peut pas fournir. Et Comey est à ce point embarrassé après l'un des tête-à-tête qu'il a avec Trump, qu'il demande au ministre de la Justice, Jeff Sessions, de ne plus le laisser seul en tête-à-tête avec le président américain. Il a cette requête auprès du ministre de la Justice. C'est assez extraordinaire, non, Dick Howard?
Revenons l'instant tout de même à qui c'est ce bonhomme James Comey, oui. Parce qu'il n'est pas surgi de nulle part, oui. C'est quand même lui qui, aux yeux de la plupart des démocrates, du moins des démocrates de Clinton, c'est lui qui a coûté à Hillary Clinton l'élection, qui à 11 jours avant l'élection annonce qu'il y a une enquête qui est en cours et qui deux jours avant dit « Oh non, c'est pas ça ».
Sur l'utilisation imprudente de sa boîte mail et Hillary Clinton a répété encore il y a peu c'est sans doute le FBI qui lui avait coûté son élection.
Oui, mais alors se pose la question qui n'est pas simplement une question d'actualité américaine, c'est une question qui touche à toutes nos démocraties, y compris la française actuellement, c'est Monsieur Transparence. C'est cette idée qu'il devrait y avoir une transparence, une pureté, une neutralité de la justice qu'incarne Monsieur Comey. Vous l'avez la même chose ici. Aussi, depuis quelques jours, avec la loi sur la transparence, avec la question autour de l'affaire Richard Ferrand, est-ce que et dans quelle mesure devrait-on avoir une justice qui veille, qui ait ses pouvoirs? André Caspi a fait l'allusion à M. Hoover, qui s'est maintenu. Il s'est maintenu en grande partie parce qu'il avait des dossiers sur tout le monde. Quand Kennedy voulait le renvoyer, il disait pas, tiens, ben, qu'est-ce qu'il a fait ton frère récemment?
Oui, sauf que James Comey n'est pas la justice lui-même. Hein. Il représente le pouvoir exécutif.
Il
est sous l'autorité du département de la justice, puisque le FBI relève directement du département de la justice. Et c'est en ce sens que, au fond, le président des États-Unis peut agir sur le FBI, dans la mesure, bien sûr, où il y a des raisons pour agir. Mais là, ce qui est frappant, c'est qu'il s'agit, au fond, de la part du président, d'obtenir un blanc-seing de la part du directeur du FBI, mais reconnaissons que ce directeur du FBI a quand même varié. Parce qu'à un certain moment, il disait non, il n'y a absolument rien à voir dans les mails d'Hillary Clinton. Puis à un autre moment, si, il y a peut-être à voir. Puis finalement, non, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Enfin bref, on ne sait pas très bien si on ajoute à cela que Comey lui-même est républicain et qu'il a été nommé par Barack Obama, on comprendra que la situation est plutôt compliquée.
Alors, situation compliquée, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'évidemment, Donald Trump est considérablement fragilisé politiquement par cette affaire. Je parlais tout à l'heure de la presse américaine. Le New York Times disait il y a quelques heures que Jeff Sessions lui-même, donc le chef du département de la justice, avait présenté sa démission, refusée par Donald Trump. Mais sur un plan ensuite institutionnel, est-ce le début de la fin? Les démocrates sont prudents pour l'instant. Dans leur ensemble, ils continuent d'engranger, de noter les faits qui sont relatés, mais certains d'entre eux commencent à dénoncer ce que vous avez fait, une entrave à la justice et le début d'une éventuelle procédure de destitution. Est-ce que vous croyez à ce scénario, André Caspi?
C'est-à-dire qu'il y a un procureur spécial qui mène l'enquête. Si ce procureur spécial aboutit à des conclusions qui justifient un acte d'accusation, il faudra que la Chambre des représentants vote et d'abord rédige cet acte d'accusation et le vote ensuite. N'oubliez pas qu'à la Chambre, la majorité est républicaine. La majorité n'est pas démocrate.
Il faudrait qu'une vingtaine d'élus républicains basculent.
Oui, c'est exactement cela. C'est-à-dire que ça peut se faire, ça n'est pas exclu. Mais ça veut dire que malgré tout qu'il faudra beaucoup de temps et il faudrait aussi que l'acte d'accusation soit particulièrement lourd pour qu'il y ait ce basculement. Parce que va-t-il se passer si des républicains basculent en novembre 2018, il y a des élections élections législatives, c'est-à-dire que toute la Chambre des représentants va être renouvelée et un tiers du Sénat. Et dans les deux chambres, la majorité est républicaine. Au Sénat, de très peu, à la Chambre des représentants, un peu mieux. Mais ça veut donc dire qu'il faudrait que le parti républicain, au moins dans sa majorité, accepte l'idée que l'on mette en accusation un président républicain. Ça pourrait avoir des répercussions, bien entendu, sur les élections.
Un président encore soutenu par les électeurs républicains, je pense que c'est ça qui est important,
bien
parce
sûr.
Que les élus aux États-Unis comme en France regardent les sondages d'opinion. Il y a un dernier sondage qui est paru ces dernières heures. Trump n'est soutenu que par 34% des Américains, mais par 81% des électeurs républicains. Donc ça ne devrait pas inciter ces élus à le lâcher maintenant, Dick Howard.
Je crois qu'il y a aussi autre chose. Ce qu'on a vu depuis maintenant les 4-5 mois qu'il est au pouvoir, c'est l'opportunisme, la lâcheté de côté de nos députés. Et quand on prend un exemple qui est plus familier peut-être aux auditeurs ici en France, pourquoi les États-Unis se sont retirés du COP21, c'est aussi le rôle de l'agent. Par exemple, en l'occurrence, on peut documenter que de l'argent est entré pour transformer la vision du parti. Et donc, il y a des questions qui sont plus larges. Mais effectivement, sur le plan institutionnel, il me semble que les démocrates vont plutôt, à moins qu'il y ait vraiment un document étonnant, je crois que les démocrates vont plutôt tabler sur les élections de mi-mandat de 2018.
Mais le retentissement qui sera donné aujourd'hui à l'audition de Comey, avec ses suites, peut évidemment faire évoluer l'opinion américaine.
Je crois que même à France Inter, il faut quand même souligner
même
que les médias ne font pas la loi. C'est-à-dire que...
Mais France Inter ne prétend pas faire la loi.
Je sais. On cite toujours le Washington Post et le New York Times, mais le Washington Post et le New York Times sont furieusement opposés à Trump.
Certes, mais ils ont été particulièrement bien informés ces dernières semaines.
Il ne faut pas oublier qu'au moment de l'élection présidentielle, 200 journaux ont pris parti pour Hillary Clinton, 6 seulement pour Trump. Autrement dit, Trump n'a aucun souci particulier à l'égard du Washington Post ou du New York Times. Mais il sait que ces deux journaux lui sont tout à fait hostiles.
Absolument, mais il est plus victime de lui-même que de la presse américaine.
Et je dirais que beaucoup d'Américains se fichent comme de l'an 40 des opinions du New York Times et du Washington Post.
Oui, mais là on ne parle pas d'opinion, on parle de faits, André Caspi, et de fonctionnement de cabinet de la présidence américaine.
Des faits alternatifs.
Non, ils ne sont pas alternatifs. Merci de le reconnaître. Dick Howard, André Caspi. On vous retrouve tout à l'heure avec les appels, les curiosités des auditeurs d'un France Inter et dans un instant la revue de presse.